OK, fait que bonsoir à tous. On est bien content de se retrouver encore ce soir pour continuer notre étude dans l'Épître aux Éphésiens. Puis ce soir, on est rendu dans le chapitre 3, on va faire les versets 13 à 21. On avait fait le début du chapitre 3 la dernière fois. Puis on arrive ici à la deuxième prière de Paul. Il y a deux prières que Paul il fait dans l'Épître aux Éphésiens en écrivant. À un moment donné, il fait une prière pour eux. Puis ça, c'est la deuxième prière. Ça fait qu'on va lire le passage pour commencer. Puis ensuite de ça, bien, on va avancer là-dedans. Dans le chapitre 3 d'Éphésiens, au verset 13, Paul dit ici: Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez en comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on est encore devant toi ce soir en te remerciant d'abord pour ta bonté, ta fidélité envers nous, toutes ces grandes bénédictions que tu nous accordes, notre Dieu. Merci pour ta parole. Puis on pense à ton serviteur Paul qui a fait une prière pour les Éphésiens. Et c'est la même chose pour nous, Seigneur. On a besoin aussi de cette prière. Et on t'en rend grâce. Puis on te remercie que tu continues de nous bénir toujours dans ton amour, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que Paul avait parlé du mystère de l'Église, c'est-à-dire un corps qui est composé de païens et de juifs au même titre. C'est un mystère qui était révélé maintenant dans le Nouveau Testament. Puis Paul avait parlé ensuite de ça, du fait qu'il avait reçu ce ministère-là. Bien maintenant, il y avait une intendance, c'était de le transmettre à d'autres. Puis, mais en faisant ainsi, on voit que il voyait ça comme une grâce que Dieu lui avait accordée de pouvoir parler, de pouvoir transmettre ce mystère-là, cette intendance, mais en le faisant, bien, ça occasionnait beaucoup de problèmes. Beaucoup parce que c'est un message adverse dans le monde dans lequel on vit, parce que le prince, le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air, il aveugle l'intelligence de ceux qui périssent afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un message qui est à contre-courant pour le monde dans lequel on vit. Donc, ça suscite, comme pour le temps de Paul, ça suscitait des persécutions. Dans le temps qu'on vit, nous autres, c'est peut-être les persécutions sont moins fortes. Mais on s'aperçoit peut-être qu'on va connaître des persécutions. Mais à cause de tout ça, c'est sûr que les Éphésiens, à qui il leur parlait, il leur dit au verset 13, Aussi je vous demande de ne pas perdre courage. Parce que c'est sûr qu'en voyant toutes les afflictions de Paul, puis il les nomme dans 2 Corinthiens, il a fait naufrage, il a eu beaucoup de difficultés, il a été lapidé, il a été dans l'abîme, il a un moment donné, ils l'ont laissé pour mort. Mais Paul, il dit ici, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Donc, s'il y a autant, quand il y a beaucoup d'opposition, c'est parce que le Seigneur va faire un grand travail. Puis c'est ça qui est, c'est pour ça qu'il dit, c'est votre gloire, elles sont votre gloire, ces choses-là. Donc, mais ce qui est important là-dedans, c'est peut-être que les Éphésiens pouvaient se dire, mais est-ce que, comment, si Dieu est un Dieu d'amour, comment ça se fait qu'on a à souffrir d'une telle façon? Ben, Paul ici, c'est pour ça qu'il disait, il ne voulait pas qu'ils perdent courage à cause de ces choses-là. C'est parce que c'est l'important. Mais ce qui est important là-dedans, comment, c'est un peu comme si on remettait en question l'amour de Dieu. Mais Paul ici veut leur démontrer que vraiment, oui, Dieu nous aime. Puis c'est ce qu'on va voir un peu dans ce passage-là. mais c'est en vue des circonstances, comme il mentionne au verset 13. Donc, sa première prière, elle avait en vue la révélation de la connaissance du Seigneur Jésus, l'espérance qui s'attache à son appel, puis la puissance pour vivre cette vie. On avait dit dans ce temps-là que la vie chrétienne était impossible à vivre sans la puissance du Seigneur, mais il y a sa puissance qui est mise à notre disposition. On va le voir encore ici dans cette prière-là aussi. Mais la deuxième prière, elle a en vue qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour de Christ. C'est ce qu'on voit au verset 17, là. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Un petit peu. Donc c'est ça qu'il voulait. Il voulait qu'il soit vraiment bien enraciné dans l'amour de Christ. Puis aussi, dans le verset 19, il dit qu'il soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est quelque chose, hein, quand on pense. Il dit au verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On voit que quand le tabernacle a été construit, eh bien, la gloire de Dieu est entrée dans le tabernacle. Puis, il y avait une fumée, puis les sacrificateurs ne pouvaient pas fonctionner, ne pouvaient pas agir parce que la gloire de Dieu était présente. Puis aussi, quand le temple a été construit par Salomon, quand la gloire de Dieu est entrée, bien, elle a rempli le temple. Mais ici, il parle que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il ne demeure pas dans des maisons faites de main d'homme, mais il a choisi ce mystère-là que Paul a parlé, c'est qu'on devient une habitation de Dieu en esprit. C'est quelque chose de penser que Dieu vienne nous habiter dans toute sa plénitude. Puis c'est vrai, quand on reçoit le salut de Dieu par la foi, s'étant repenti de nos péchés, puis ayant demandé son salut qu'il nous offre gratuitement, bien, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, mais aussi en tant qu'assemblée, comme Paul y parle ici, bien, Dieu il fait de l'Église son temple. Il vient habiter dans son temple, puis de penser que toute la plénitude de Dieu vient habiter en nous. Mais ce qui est important, c'est l'amour ici qui est mentionné. L'amour est au centre de tout le plan de Dieu. Quand on pense à la rédemption que Dieu nous a donnée, tout est basé sur l'amour. C'est pour ça ici que Paul, il veut qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour. Parce que c'est important qu'on puisse bien connaître cet amour-là pour en jouir. Le thème de toute la parole de Dieu, ben, on peut résumer dans Jean 3, 16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on pense à cet amour-là, ben c'était tout le fondement, parce que Dieu est amour. Puis, quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, ben, on répond à son amour. Puis en répondant à son amour, ben, on a la plénitude de Dieu ici. C'est sûr que quand on pense à l'amour, c'est un besoin fondamental, l'amour. Le monde en parle, mais le monde ne connaît pas vraiment le vrai amour. C'est souvent un amour conditionnel qu'on voit dans le monde. Je pense que l'amour le plus proche dans le monde qu'on peut voir, c'est l'amour d'une mère pour ses enfants. Puis, justement, il y a une sœur ici à Dieppe qui a perdu une de ses filles. On voit elle est vraiment troublée, elle est vraiment dans une grande peine. Puis c'est vrai, c'est une mort tragique dans un accident. Puis on essaie de la réconforter parce que c'est pas facile. Mais l'amour, c'est un besoin fondamental. Il y a des gens qui passent leur vie à rechercher l'amour, hein, même comme des artistes qui ont cherché l'amour dans le monde. Puis je pense à Édith Piaf qui a écrit une lettre avant de mourir. Puis elle a cherché l'amour dans différentes personnes. Puis elle n'a pas connu cet amour-là. C'est vraiment triste de lire cette lettre-là qu'elle a écrite avant sa mort. Mais les seuls qui vraiment trouvent un vrai amour, c'est un amour inconditionnel, ce que la Bible appelle un amour agapé, c'est ceux qui le trouvent dans la personne du Seigneur. Parce que, comme le Seigneur, comme on a dit, son plan, c'est un plan d'amour pour nous. C'est parce qu'il nous aime. Puis c'est difficile pour nous de comprendre tout ce qui est fait pour nous, mais c'est si on voit la base de tout cela, c'est dans l'amour. Puis, quand on découvre l'amour du Seigneur pour nous, là, on apprend vraiment comment aimer. Puis, il dit ici, il dit pour nous, dans 1 Jean 4, 19, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, c'est ça qu'on a découvert son amour parce que lui nous a aimés le premier. Vous savez, le christianisme, le vrai christianisme, c'est basé sur l'amour. Mais les religions d'hommes ne sont pas basées sur l'amour. Les religions d'hommes ne sont pas basées sur l'amour, sont basées sur il faut accomplir des choses. C'est des fardeaux. Le Seigneur disait dans Matthieu 23, 4, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Puis c'est ça, dans la religion, c'est toujours un salut qu'il faut accomplir avec des fardeaux qui sont mis sur les épaules. Tandis que l'Évangile, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est basée sur le fait que Dieu a tant aimé le monde, puis c'est lui qui a donné pour notre salut. Donc, c'est chose vraiment merveilleuse. Puis, dans les religions, mais c'est toujours des exigences qui sont imposées. Mais le vrai christianisme biblique est basé sur le principe, comme c'est un principe qu'on voit dans Actes 20, 20, 35, il dit, se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est vraiment le principe de l'amour. Puis quand on parle de l'amour dans la parole de Dieu, il est toujours attaché à donner. Il dit, Christ qui a aimé son Église et qui s'est livré lui-même pour elle. Paul, il parle de celui qui m'a aimé, du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné, qui s'est livré lui-même pour moi. Puis Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc l'amour, est manifesté dans le don. Puis c'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu. Puis ça devient un principe qu'on apprend aussi. Comme il dit ici, se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La preuve, c'est que dans le monde, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde revendique pour eux-mêmes leurs droits. Puis le monde est malheureux. On voit le monde dans lequel on vit qui est malheureux. Puis même le Seigneur a dit que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles parce que les hommes seront. Comme dans 2 Timothée 3:1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Puis égoïste, ça veut dire que dans la traduction anglaise, ils disent amoureux d'eux-mêmes. Donc les gens, puis c'est vraiment dans la psychologie aujourd'hui, c'est il faut apprendre à s'aimer. Mais la Bible nous dit que jamais homme n'a haï sa propre chair. On ne s'haït pas, on s'aime. C'est le problème. La Bible dit plutôt que c'est ça le problème. Le monde nous dit que le problème, c'est qu'on ne s'aime pas. Puis la Bible nous dit que le problème, c'est qu'on s'aime trop. C'est ça qui est. Mais si on apprend comment le Seigneur nous a aimés, puis qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, si on essaie de rendre les autres heureux, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va être heureux. Quelqu'un a dit, sème du bonheur dans le champ de ton voisin, puis tu vas être étonné de voir ce que le vent va faire. Parce que la semence de son champ va s'en venir chez vous, puis ça va ensemencer ton champ aussi. Donc, il faut s'aimer soi-même. Non, ça, c'est le fondement sur lequel la société est basée, puis on voit comment ça se passe dans la société. Chacun revendique ses droits, puis tout le monde est malheureux. Tandis que, vous voyez, quelqu'un qui essaie toujours d'aider les autres, là, puis qui pense toujours aux autres, vous allez voir quelqu'un d'heureux, parce que c'est ce que le Seigneur dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais une chose qui arrive, c'est que quand on s'aime trop, quand on devient pas aimable, parce qu'on pense rien qu'à nous autres, puis c'est pas tellement intéressant d'être avec des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, puis qui sont toujours égoïstes, c'est pas une belle atmosphère. Fait quand on s'aime trop, on devient pas aimable. Mais le vrai besoin, là, c'est de se savoir aimer. C'est ça qui est important, de se savoir aimer. Ça, c'est besoin. Puis c'est ça qu'on retrouve dans le Seigneur. On trouve un amour merveilleux. Dans les versets 17 à 19, là, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc la prière de Paul, c'est ça. Il veut qu'il soit enraciné, il veut qu'il connaisse cet amour-là. Puis, en connaissant cet amour-là, mais qu'est-ce qui arrive? On est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu parce que Dieu est amour. Vous savez, quand on regarde là, ici, il y a quatre dimensions. Mais nous, ce qu'on connaît, c'est trois dimensions. Tout est en trois dimensions. Mais comment qu'on peut connaître quatre dimensions dans l'amour de Dieu? Ben, c'est quand on est au milieu. Quand on est au milieu, parce qu'il parle ici, là, il parle de la largeur, la longueur, la profondeur, puis la hauteur. Ça fait que si on est au milieu, il y en a en bas, puis il y en a en haut aussi, puis il y en a de chaque côté. Ça fait qu'on est au milieu de l'amour de Dieu. Puis c'est ça que Paul, il démontre par sa prière que c'est vraiment important d'être fondé dans cet amour-là, d'être vraiment jusqu'à qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Vous savez, une femme qui est aimée par son mari, eh bien, elle va pouvoir s'épanouir puis devenir ce que le Seigneur veut qu'elle soit. Fait que c'est une responsabilité, comme le Seigneur a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Un enfant qui naît dans une famille où il est aimé, bien, il va pouvoir s'épanouir aussi. Il est entouré de l'amour de ses parents. Mais comment c'est le mari, dans le sens qui est la source de tout ça, mais pas la source, mais c'est lui qui est l'initiateur de cet amour-là dans sa famille. Mais pour que il doit connaître aussi l'amour de Dieu pour lui. Quand il connaît l'amour de Dieu pour lui, bien, il peut répandre cet amour-là, puis sa femme, elle va répondre à cet amour-là. Les enfants vont grandir dans un milieu d'amour, puis ça va être vraiment merveilleux. Mais si on sait aimer Dieu, là, bien, tout cela va avoir sa source en Dieu. Ça, c'est important. Le verset 16, il dit ici, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est ça qu'on a besoin d'être fortifié par son esprit. Puis le mari qui est enraciné dans l'amour de Dieu, il va pouvoir pourvoir à cet environnement-là pour sa famille. Mais au verset 15, Paul en pose le fondement, là. Il dit, de qui? Il dit, au verset 14, il a dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Donc c'est là la source, là. De qui? Toute famille, on a parlé du Père, de la femme, la mère, les enfants. Il dit, devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. La famille, c'est un modèle qui nous est donné par Dieu. C'est lui qui a fondé la famille. Puis, Paul y adresse sa prière au Père. Le Père en grec, c'est Pater. Pater. Mais il dit, de qui toute famille dans les cieux tire, sur la terre tire son nom. Puis, en grec, le mot famille, c'est patria. Donc, ça vient de pater. Puis, c'est ça, la famille, c'est l'idée de Dieu. Puis, parce que c'est une relation, comme il y a une relation dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y a une relation aussi qui est dans la famille, qui est une relation qui doit être fondée sur l'amour, comme la relation dans la Trinité est fondée sur l'amour, sur le respect, sur la soumission, sur l'obéissance. Eh bien, de la même façon, dans la famille, c'est ce qu'on démontre. Puis c'est un privilège merveilleux pour des enfants de grandir dans une famille avec ce modèle-là. Parce que ça leur représente, quand on nous parle de Dieu, le Père, on dit, ben, là, on comprend c'est quoi un Père. On comprend, mais quelqu'un qui n'a pas connu un Père qui était aimant, c'est difficile pour lui de se faire une bonne idée de ce qui est Dieu le Père. Puis, c'est vraiment un modèle que Dieu a donné à la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la famille est tellement attaquée par l'ennemi. On a détruit la famille, puis en détruisant la famille, on a détruit la société. Parce que la société est fondée sur la famille. Les enfants grandissent dans une famille, apprennent à vivre en société, qui, éventuellement, quand ils deviennent grands, ben, ils apprennent à vivre dans la société des autres. Mais si ça va pas bien dans la famille, ben, on va avoir de la difficulté à bien fonctionner dans la société. Parce que c'est là qu'on apprend. Dans la famille, on apprend tous ces principes-là. Une bonne autorité. Puis la mère se soumettant à cette bonne autorité-là qui prend soin des autres avant de prendre soin lui-même, les enfants apprennent naturellement à respecter cette autorité-là, puis grandir dans ce modèle-là que Dieu nous a donné. Mais des fois, on se demande, Ici, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté pour toute sa création. Puis Dieu manifeste son amour. On voit comment est-ce qu'il pourvoit à tous les besoins, même de sa création qui s'est rebellée contre lui. Eh bien, le Seigneur continue de pourvoir. On est fragile dans un sens. Si ça ne serait pas dur pour de dérégler un petit peu la terre, puis on périrait tous, là. Mais c'est la bonté de Dieu qui puis dans sa bonté, dans son amour, ben, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, Dieu continue de prodiguer ses bons soins. Le soleil fait briller son soleil sur les bons, sur les méchants, et il donne la nourriture à tous. Même des fois, il y a des gens qui disent, ah, pourquoi tu rends grâce? Et dit, moi, je ne rends pas grâce, puis j'ai la nourriture. Oui, on a la nourriture pareil, mais on choisit de reconnaître la bonté de Dieu, puis de lui rendre grâce. Donc, mais on se demande pourquoi que Dieu nous aimerait. Des fois, on se demande parce qu'on est des êtres rebelles, on est des êtres qui sont ingrats souvent avant qu'on soit sauvés. Il y a peu de gens qui vont rendre grâce pour leur nourriture. Puis si on leur parle de ça, ils vont dire, ah ben, c'est moi qui gagne mon pain. C'est bien beau qu'on gagne notre pain, mais il faut avoir la santé, puis il faut avoir les ressources, puis il faut avoir tout ce que Dieu a pourvu pour qu'on puisse pourvoir à notre famille, pourvoir à nos besoins. Mais la réponse, pourquoi que Dieu nous aime quand on est rebelle comme ça, puis on le voit aussi avec Israël, parce que Israël était rebelle, puis Dieu continue de les aimer quand même. Mais la réponse, c'est que le vrai amour ne tire pas sa source dans l'objet aimé. Mais le vrai amour trouve sa source dans l'amour lui-même. Puis Dieu trouve la source de son amour en lui-même parce que c'est son caractère, c'est sa personne. Dieu est amour. Dieu a des attributs, mais on dit que dans la parole de Dieu, Dieu est amour. Puis il a manifesté tout. Quand on lit la parole de Dieu d'un bout à l'autre, c'est la plus belle histoire d'amour qu'on peut voir, hein. Ça commence dans la Genèse avec un homme qui est seul. Puis il n'est pas bon que l'homme soit seul, puis Dieu lui crée une être semblable à lui pour qu'il puisse l'aimer. Puis ça démontre comment Dieu nous a aimés. Ça démontre la relation que Christ a avec son Église aussi, Christ qui a aimé son Église, qui s'est livré lui-même pour elle. Donc la source n'est pas dans l'objet, mais la source de l'amour est vraiment dans la personne qui aime. Puis ici, c'est Dieu. Puis c'est pour ça que nous autres, on doit apprendre à aimer comme ça. Pas aimer d'une façon conditionnelle, parce que le monde, l'amour du monde, ben, c'est je t'aime en autant que je peux en tirer profit. Hein, c'est pour ça qu'il tombe en amour, puis après ça, ben là, l'amour s'en va, puis je t'aime plus. Un mari qui disait ça, il disait j'aime plus ma femme. Ben, j'ai dit, c'est tragique. Tu as promis que tu allais l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Fait qu'aime-la. Puis la volonté est impliquée dans l'amour. Ce n'est pas un sentiment qui vient puis qui passe. Il faut nourrir l'amour. Mais c'est un commandement. Si Dieu donne un commandement, Marie, aimez vos femmes, puis aimez vos enfants, puis c'est vraiment s'il donne un commandement, c'est que la volonté est impliquée, puis il faut agir par obéissance pour aimer, mais on l'apprend en aimant comme Dieu aime. Mais le monde, lui, c'est comme ça, on voit ça constamment, l'amour. À un moment donné, les mariages sont brisés, les familles sont brisées. Pourquoi? Parce que l'amour est parti. Parce qu'on a désobéi, on n'a pas continué d'aimer comme on devait aimer. Mais l'amour de Dieu, c'est que lui en est la source. Dans 1 Jean 4, 16, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voyez-vous, quand on est dans l'amour, c'est ça que Paul y prie pour eux autres, qu'ils soient enracinés puis fondés dans cet amour-là, parce qu'on en a besoin de cet amour-là. C'est important. Mais Dieu nous aime pas parce qu'on est aimable, mais parce que Dieu cherche un objet pour manifester son amour. Puis ça, c'est vraiment grand là, quand on pense à ça. C'est un amour inconditionnel. Puis Paul priait pour que les Éphésiens puissent le réaliser, qu'ils étaient l'objet de cet amour. C'est pas parce qu'ils voulaient pas qu'ils deviennent l'objet de cet amour. Ils étaient l'objet de cet amour, mais ils voulaient qu'ils puissent le réaliser. Puis plus qu'on va réaliser qu'on est l'objet de cet amour-là, plus que ça va être facile pour nous de pouvoir manifester cet amour-là. La requête, on la voit au verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puis le résultat, au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, la religion, elle nous dit, aimez Dieu. Et il vous aimera. Hein? Je suppose que quand on était jeune, c'est un peu comme, c'est ce qu'on nous disait, là, si on aimait le Seigneur Jésus, ben là, il allait nous faire du bien. Mais c'est faux, ça. C'est pas comme ça que le Seigneur. Et la religion nous dit, aime Dieu, puis Dieu va t'aimer. Mais le message de la parole de Dieu, c'est que lui nous aime, puis on répond à son amour. Puis, parce que dans la religion, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des choses afin de gagner son amour. Puis c'est pas ça le vrai christianisme. C'est pas de faire des choses pour gagner son amour. Puis on est imprégné de ça constamment. Là. Puis même, on fait toujours des choses pour essayer de gagner l'amour. Mais dans le Seigneur, on reconnaît Paul ici, il veut qu'il soit fondé dans cet amour-là, enraciné, fondé dans cet amour-là. Mais Jean nous dit, lui, il dit de connaître l'amour de Dieu, puis vous allez y répondre. C'est ça que Jean a dit. Dans 1 Jean 4, 10 à 11, il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Voyez-vous comment la source, il dit, c'est pas parce qu'on a aimé Dieu, mais c'est parce que lui nous a aimés. Puis la preuve qu'il nous a aimés, c'est qu'il a donné, comme on a vu dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, quand on apprend cet amour-là, puis qu'on est enraciné et fondé dans cet amour-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est on va apprendre à s'aimer aussi les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Ça, c'est en contraste avec ce qu'on était avant de connaître le Seigneur. Parce que dans Tite 3,3, Paul dit ici, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Voyez-vous dans quelle atmosphère qu'on vivait auparavant? Puis maintenant, on est entré dans cette atmosphère d'amour-là, comment que Dieu nous aime. Donc, mais il y a une chose qu'on doit comprendre par rapport à l'amour que Dieu a pour nous, c'est que on peut rien faire pour en avoir plus. On peut pas rien faire pour l'avoir non plus. Pourquoi? C'est parce qu'il nous l'a donné dans sa plénitude, les versets 18 à 19, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est de le réaliser, on l'a déjà, mais c'est de le réaliser, puis d'être enraciné, puis fondé dans cet amour-là. Puis cet amour-là, on l'a eu, c'est bon de comprendre que cet amour-là était là avant même qu'on y réponde. On y a répondu quand on a été sauvé, qu'on a accepté son amour, mais il nous dit dans Romains 5,8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix qui prouve l'amour de Dieu pour nous, ben, on était encore des pécheurs. On ne s'était pas encore tourné vers lui. Puis il nous a prouvé son amour en ce temps-là. S'il nous a aimés quand on était encore des pécheurs, ben, comment est-ce qu'il nous aime maintenant qu'on est des sauvés, qu'on est ses enfants? Mais on l'avait tout son amour avant. On l'a juste reconnu au moment de notre salut. On l'a accepté, puis on y a répondu. Mais ça, c'est important. Mais cet amour-là qui était manifesté avant qu'on soit sauvés, ben, il dit, le Seigneur, c'était le plus grand amour qu'on peut connaître. Parce que Jean 15, 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Le Seigneur Jésus a donné sa vie. Puis on le voit ça quand il était sur la croix, le Seigneur Jésus, à ses bourreaux, ceux qui se moquaient de lui, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui ont percé ses mains, qui ont planté des clous dans ses mains, ils disaient, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc l'amour, le Seigneur le manifestait ici. Mais maintenant, tout ce qui nous reste, cet amour-là, il est là pour nous. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de vivre dans la réalité de cet amour-là. C'est que Paul, dans sa prière ici, il prie qu'il puisse comprendre cet amour-là, qu'il puisse être enraciné puis fondé dans cet amour-là, parce qu'ils l'ont tous. Puis il nous reste en vivant dans la réalité de cet amour-là, ben c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir être fonctionné pour le Seigneur. Comme on a parlé tantôt, hein, le Père qui comprend l'amour de Dieu pour lui, eh bien, il peut manifester cet amour-là envers sa femme, puis ses enfants, puis la femme qui connaît cet amour-là aussi, de la part de Dieu, puis de la part de son mari, bien, va pouvoir aimer ses enfants aussi. Puis les enfants, ils vont répondre aussi à cet amour-là. Donc, c'est toute une atmosphère qui est créée. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est enraciné puis fondé dans cet amour-là? Bien, on va vivre dans la réalité. Comme Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Puis quand on est crucifié avec Christ, c'est que ma vie est terminée, là. Quand on est crucifié, la vie est terminée. Mais c'est ce qu'on était dans la chair qui a été crucifié pour que maintenant on puisse vivre d'une vie nouvelle. On est mort avec Christ, on était ressuscité avec lui. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voyez-vous comment le rapport avec cet amour-là que Paul avait connu dans le Seigneur Jésus, eh bien, là maintenant, il pouvait vivre dans la foi à cet amour-là. C'est pour ça, comme il disait au début, là, si je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions, pourquoi que Paul vivait dans ces afflictions-là? Ben, c'est parce que, premièrement, il aimait le Seigneur Jésus, parce qu'il était aimé du Seigneur Jésus. Puis que sa vie ne comptait plus pour lui. Puis en même temps, il aimait ceux à qui il transmettait ce message-là. Ceux à qui, puis il était prêt à souffrir pour transmettre ce message-là pour les Éphésiens. Puis c'est pour ça qu'il leur dit, ben, ne vous affligez pas de ça, c'est votre gloire. Puis lui, il était prêt à se donner lui-même. Puis il disait aux Thessaloniciens aussi, il disait qu'il était comme une nourrice auprès de d'un enfant, tellement il prenait soin des autres. Puis Paul, on voit son amour qui est manifesté dans ses épîtres qu'il a écrites à toutes ces églises-là, puis même aux personnes qui étaient ses aides, à qui il a écrit. Il leur démontre toujours cet amour-là. Mais regardez, on voit aussi dans le chapitre 3, verset 19 ici, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le verset 20. Ici, Paul se confie dans la puissance de Dieu pour l'accomplissement de sa prière. Donc, Paul priait, mais quand on prie, ben, c'est quoi qu'on fait? Ben, on se tourne vers la puissance de Dieu. C'est une grande prière qu'il fait ici, là. Comme la première prière était grande, celle-ci aussi est grande, parce qu'il vraiment, il s'attend à un résultat par la foi, comme Jacques dit, qu'il la demande avec foi, parce que celui qui demande sans avoir la foi, il est instable comme les eaux, là. Les eaux qui sont agitées par les vents. Donc, Paul, il se confie dans la puissance de Dieu pour l'accomplissement de sa prière, qui sera même au-delà de ce que Paul peut demander. Voyez-vous, après avoir prié, il dit, Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Puis, donc, là, il s'attend vraiment au Seigneur pour répondre à sa prière. Parce qu'on peut demander, puis le Seigneur va agir, mais demander avec foi. C'est que si le Seigneur répond à la prière pour les Éphésiens, ben regardez qu'est-ce qui va arriver. C'est que cette église-là va vraiment être enracinée, fondée dans l'amour de Dieu, puis manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puis ils vont apprendre à s'aimer les uns les autres. Ils vont apprendre aussi à aimer ceux qui les entourent pour leur présenter l'évangile ici, là. Mais regardez au verset 21, parce que la réponse même de Paul à sa prière va apporter la gloire au Seigneur. Voyez-vous, verset 21, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Donc, Paul priait pour que cet amour-là soit vraiment, l'Église d'Éphèse soit fondée et enracinée dans cet amour-là. Puis s'ils sont fondés et enracinés dans cet amour-là, ben, ça va amener la gloire. Parce que le Seigneur Jésus, il a dit, ils sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puis s'ils ont de l'amour pour les uns pour les autres, ben, ceux du dehors vont être attirés vers cet amour-là, parce qu'on recherche cet amour-là. Puis quand on le voit en action dans le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, ensuite de ça, dans l'Église qui va se donner, c'est pour ça que l'évangélisation est une chose importante pour l'Église. Hein. C'est de pas, on ne peut pas se continuer à se réjouir quand on voit des gens autour de nous qui périssent. Donc, si on a de l'amour, puis c'est ça qui est étonnant des fois. Il y a des gens, des fois même comme, ils ont des gens qui ont des amis, puis ils leur ont jamais parlé du Seigneur. Ils leur ont jamais parlé de l'Évangile. On se demande, est-ce que vous aimez vraiment vos amis? Est-ce que vous réalisez pas que s'ils ne sont pas sauvés, ils vont finir dans l'étang de feu pour l'éternité? Si vraiment on aime quelqu'un, ben on va lui parler. Du Seigneur Jésus-Christ, on va lui parler de l'Évangile parce qu'on veut leur bien. On veut. Puis des fois, ce qui nous empêche de le faire, c'est d'une façon égoïste parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais si vraiment on a à cœur on a l'amour pour eux, bien, on va les rejoindre. Puis une église qui est fondée et enracinée dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, bien, va rechercher à rejoindre ceux du dehors parce que Christ est mort pour eux. Christ les aime, il prouve son amour envers eux, parce que lorsqu'ils sont encore des pécheurs, Christ est mort pour eux. Ça, c'est important. Mais la gloire de Dieu va être manifestée dans l'Église par l'amour. On voit que l'Église des Éphésiens dans l'Apocalypse, dans les sept églises de l'Asie mineure, ici, le Seigneur, dans son message, il leur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné son premier amour. Parce que l'Église des Éphésiens avait abandonné son premier amour. Il faisait encore des activités, mais l'amour n'était plus là. Paul avait prié pour eux qu'ils soient fondés et enracinés dans cet amour-là, mais à un moment donné, ils ont abandonné. C'est un acte délibéré, dans un sens, ils ont abandonné leur premier amour, puis le Seigneur leur dit, repens-toi. Puis de repens-toi, puis peut-être on va aller voir dans l'Apocalypse au chapitre 2. Attendez un petit peu. Je suis dans le chapitre 1. Il dit dans le verset 1 du chapitre 2 de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc, il y a des belles choses à dire de cette église-là. Mais il dit ensuite, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, les œuvres qui étaient fondées dans l'amour, qui étaient l'objet de ces œuvres-là, c'était vraiment l'amour. Il dit, tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, si il n'y a pas l'amour, ben, il n'y aura plus non plus le témoignage qui va être rendu par amour, l'Évangile. Donc ici, Paul avait prié pour eux, puis l'Église d'Éphèse, à ce moment-là, le Seigneur pouvait répondre à la prière de Paul pour cette Église-là qui soit fondée et enracinée. Mais il faut continuer. Il faut continuer parce qu'on avance dans le temps. Puis, à un moment donné, ben, c'est ce qu'on voit dans le monde. Des fois, là, ils vont dire, ah, ben, je t'aime plus. Mon amour est parti. Mais comme le Seigneur, il leur dit, repens-toi, puis reviens à cet amour-là. Donc, tout le premier, ici, c'est là que le Seigneur va être glorifié dans son Église parce que quand on manifeste l'amour, on manifeste le caractère de Dieu, puis l'atmosphère de Dieu. C'est le même c'est ce qu'on a connu, puis c'est ce qu'on doit persévérer. Puis pour ça, bien, il faut rester proche du Seigneur. Il ne faut pas se détourner du Seigneur. Il faut toujours. Puis c'est pour ça que moi, je trouve important le repas du Seigneur. Quand on prend le repas du Seigneur, ben, c'est de revenir à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. C'est de revenir à se centrer. Le Seigneur il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois, ça nous fait souvenir de quoi? Ça nous fait souvenir de son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé pour nous. Puis c'est là qu'on a connu l'amour de Dieu. Donc, aller jusqu'à maintenant, on avait vu la partie de la doctrine que Paul a présentée aux Éphésiens ici, puis il termine sur ce fondement-là de l'amour, puis d'être enraciné, comme un arbre qui est enraciné, bien, ses racines lui fournissent ce qu'il a besoin pour être verdoyant, puis rempli de fruits. Bien, là maintenant, tout ça, c'est fondé dans l'amour. Toute la doctrine que Paul a enseignée est fondée dans l'amour. Puis ça va se transmettre comment? Mais ça va se transmettre maintenant par une marche qui est digne de cet amour-là. C'est pour ça qu'on va arriver dans la partie pratique maintenant de l'épître aux Éphésiens. Puis on va voir que on avait dit au début que cet épître-là pouvait se comparer au livre de Josué, parce que Josué, il allait en faire entrer le peuple dans la bénédiction, dans le pays où coule le lait et le miel. Puis la façon que c'était, il fallait que Dieu avait fait la promesse, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Fait que pour entrer dans ces bénédictions-là, il faut marcher. C'est ce que Paul va nous montrer maintenant dans la partie pratique. Tout ça, qu'est-ce qu'on a eu comme enseignement depuis le début, bien, il va nous amener à marcher d'une façon qui est digne du Seigneur. Puis il y a cinq façons de marcher dans les chapitres qui suivent ici, là. Donc, il y a marché d'une manière dans le chapitre 4, le verset 1, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Dans le verset 17, il dit qu'on ne doit plus marcher comme les païens, ça c'est le négatif, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ensuite de ça, dans le chapitre 5, il nous dit au verset 2 de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Puis dans le verset 8, il dit aussi, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Puis finalement, ben, dans le verset 15 du chapitre 5, il dit, prenez donc garde afin de vous conduire. Mais c'est le même mot ici, conduire, qui est traduit par dans les autres passages par marcher, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Puis c'est ça qu'on va voir dans le futur, la semaine prochaine, on va commencer à regarder ces façons de marcher-là. Fait que c'est important, vous savez, on apprend les choses dans la parole de Dieu, mais ça doit se transmettre dans notre façon de marcher dans notre vie chrétienne. Si ça ne se transmet pas dans ce que c'est qu'on n'a pas bien saisi l'enseignement. Donc, c'est important. Puis Paul, en donnant cet enseignement-là, s'attendait vraiment que ça puisse résulter dans la marche, comme il va les exhorter après ça. Parce que, quand vous savez, une exhortation, comme il le fait, là, quand il va exhorter de marcher, bien, une exhortation se base toujours sur un fondement solide. Bien, le fondement solide sur lequel il se base pour donner ses instructions comment marcher, c'est tout l'enseignement qu'il a donné auparavant, qui est enraciné dans l'amour, qui va pouvoir se transmettre à travers eux, puis à travers le monde aussi, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre avec lui. Ça fait que je vais m'arrêter là, on n'entrera pas dans les façons de marcher tout de suite, on va attendre la semaine prochaine, puis on commencera, on les regardera un à un. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher de cette façon-là? C'est comme ça que le Seigneur va être glorifié dans ceux qui ont cru en lui. Ceux qui sont des chrétiens, qui sont sauvés, eh bien, c'est à nous maintenant de manifester. Le Seigneur n'est pas dans le monde dans lequel on vit, il est parti au ciel, mais on est son corps sur la terre. Étant son corps sur la terre, on va manifester sa pensée parce que lui, il va agir à travers les membres, ces membres de son corps qui sont sur la terre. Puis, qu'est-ce que c'est? Si lui est amour, ben c'est quoi qui va découler de ces actions-là? Ça va démontrer l'amour de Dieu envers les frères et sœurs, envers aussi les gens qui sont dans le monde. Ça fait que je m'arrête là pour tout de suite, puis je vous donne la possibilité de revenir avec si vous avez des questions ou des commentaires. Fait que si jamais vous avez un problème à revenir, faut que je vous donne la possibilité de prendre votre micro. Fait que je m'arrête là, puis je vous laisse la parole.
J'aurais deux questions, Gérald.
OK.
Ça n'a pas rapport à l'étude à soir.
OK.
Malgré que c'est très bien, merci beaucoup. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Lorsque l'Église est enlevée, est-ce que la grâce se poursuit?
Ben oui, parce qu'on voit que la grâce va se manifester envers Israël. Après que l'Église est enlevée, le Seigneur revient à Israël, puis il leur dit, je vous ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je vous conserve ma bonté. Puis le Seigneur, dans la tribulation qu'ils vont vivre, ils vont se tourner vers la grâce de Dieu. Ça va les amener à se tourner vers la grâce de Dieu, le reste. Puis en même temps, parce qu'ils vont voir que la grâce que Dieu a faite à nous, qui étions des désobéissants, comme on voit dans Romains, ils vont voir que Dieu peut leur faire grâce à eux aussi quand ils ont été désobéissants. On va être l'exemple pour eux que nous qui étions désobéissants, on a été récipients de la grâce de Dieu. Donc, eux, ils vont recevoir aussi la grâce de Dieu sur la même base que nous. Ils vont reconnaître leur désobéissance. Puis ensuite de ça, ben, ils vont proclamer l'Évangile dans la tribulation. Ils vont proclamer l'Évangile parce qu'il y a les 144 000 qui vont proclamer l'Évangile. Puis il y a aussi les deux témoins, puis il y a les nations qui vont être sauvées, qui vont rentrer dans le millénium.
C'est ça. Alors, ils vont mourir martyrs, plusieurs vont mourir
Oui.
martyrs pour leur foi,
Ouais.
mais ils sont toujours sauvés par grâce et non par la souffrance.
Non, non, c'est ça. C'est un peu comme Paul, il souffrait ici, comme il disait, là, ne vous affligez pas à cause des afflictions que j'endure. Mais il ne faisait pas ça pour être sauvé. Il faisait parce qu'il était sauvé.
Merci. Une deuxième question un petit peu plus embêtante qui m'a été posée en fin de semaine. On me dit, si il arrivait quelqu'un à l'Assemblée, c'est un musulman, c'est vrai là, c'est un musulman qui a accepté le Seigneur, mais il a deux épouses. Alors est-ce qu'on le recevrait dans l'Assemblée? Il m'a posé la question.
Ça, c'est sûr que nous autres, on n'est pas habitués à ces situations-là parce que ça n'arrivait pas. Mais dans l'Afrique, même dans l'Afrique, il y a plusieurs qui ont ils ont plusieurs femmes. Fait que là, c'est la polygamie, c'est un problème. C'est sûr que c'est quoi la réponse à ça? C'est pas facile de gérer cette situation-là, mais je pense que. Parce que déjà, ici, dans notre pays, c'est illégal la polygamie est illégale. Ça fait qu'en se mettant en règle avec le Seigneur, parce que le mariage, c'est entre un homme et une femme, mais il y a des choses à régler, là. C'est pour ça que je sais que
Ben, c'est pas évident à répondre.
c'est pas évident à répondre.
Excusez.
C'est vrai que ce n'est pas évident à répondre, mais c'est pour ça que le Seigneur dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous sans B, comme dans Jacques 2, dans Jacques 1. Mais c'est certain que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça serait bon d'en parler avec des missionnaires dans l'Afrique qui ont vécu ces situations-là. Mais même dans le monde dans lequel on vit, nous autres, souvent, des gens arrivent avec des situations, un peu comme la femme samaritaine. Elle avait eu cinq maris, puis celui avec qui elle était, ce n'était pas son mari. Je sais que moi, il y a une femme qui est arrivée comme ça, une fois qu'elle avait été divorcée, elle était remariée, puis elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle devait faire. Ben, moi, j'ai été sur le verset qui a dit que chacun demeure dans l'état dans lequel il était quand il a été sauvé. Mais c'est sûr qu'avoir plusieurs femmes, c'est tout un défi, là.
Bien, c'est ça que j'ai dit, il faudrait commencer par prier en tout
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
cas. C'est bon. Merci beaucoup, Gérard.
OK.
Gérard, j'ai manqué les éléments de la première prière de Paul. Tu as parlé de la révélation
La révélation, oui, puis
de.
sa première prière était la révélation, puis l'espérance, puis la puissance pour vivre la vie chrétienne.
OK, merci.
La première prière, ben, c'était à la fin du chapitre 1, là.
Oui.
Ouais, c'est ça, ça vient
Merci.
là. Ouais. Il y a toujours des bonnes questions. Hein?
C'est une bonne,
C'est une bonne.
mais vraiment bonne celle-là.
Ouais.
J'étais toujours impressionné par Éphésiens à partir du verset 17,
Chapitre.
verset 3, chapitre
Chapitre 3.
3, évidemment, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Puis ici, je vois vraiment un contraste, hein, de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Évidemment, on parle de, j'imagine qu'on parle de la connaissance de ce qu'on a connu de l'amour dans le monde. Mais il faut vraiment qu'on ait l'esprit pour être capable d'être enraciné puis comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On dirait qu'on est dans une autre dimension, on est dans un autre. On n'est plus sur la Terre là, quand on est là, me semble. J'ai
C'est un peu comme
toujours cette impression-là.
ouais, c'est comme le chant de Jacques Boulian, il dit, il y a un océan d'amour. C'est comme si on est perdu dans cet océan-là, mais c'est une bonne place pour être perdu dans cet océan-là d'amour. C'est qu'on est. Puis il nous dit aussi que la connaissance enfle, mais l'amour édifie, tu sais. Ouais. Ça fait que des fois, il peut y avoir une connaissance qui, s'il n'est pas dans l'amour, c'est une connaissance qui est égoïste. C'est un peu, on veut démontrer cette connaissance-là pour démontrer qu'on est au-dessus des autres. Mais l'amour, elle nous abaisse tout le temps. C'est pour ça que c'est important, en connaissant dans l'amour, en étant enraciné, ben ça nous remet toujours à notre place, là. Puis on va, cette connaissance-là, comme Paul, il parle, là, il dit, en les lisant, au verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, il y avait une grande connaissance. Puis il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, il parlait d'une grande connaissance. Mais avec cette connaissance-là, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il priait pour qu'il soit enraciné, fondé dans cette connaissance-là. Puis, pour ce faire, il était prêt à souffrir. Il ne se mettait pas sur un piédestal, là, puis quand vous allez être connaissant comme moi, là, vous allez être rendu. Non, il était prêt à souffrir pour leur transmettre. Il y a pas de, comme le principe, il y a pas de, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Qu'on se sent perdu dans ces versets-là, c'est soit qu'on nage ou soit qu'on se noie. Mais
Ouais.
dans ce océan.
Oui, c'est un océan profond.
Ouais.
On peut y mettre nos racines, en tout cas.
Gérald, au verset 21, il dit, à lui la gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ça, c'est une prière qui vient jusqu'à nous?
Ah ben oui.
C'est ça
Ben
qu'il veut
oui.
dire, hein?
Ouais, parce que quand l'Église est ce qu'elle doit être, eh bien, c'est ça, c'est la gloire en vie. Bon, quand on aime comme le Seigneur a aimé, ben, les gens, ils n'ont pas connu cet amour-là dans le monde. C'est que quand ils la voient en nous, c'est sûr qu'ils vont dire, ben là, ils ont quelque chose de spécial, les autres. Il y a quelque chose que nous autres, on n'a pas. Puis ils vont voir que cet amour-là, elle vient pas de nous, là. Elle vient de son origine et dans le Seigneur Jésus. C'est ce qui. Parce que quand on parle de gloire, la gloire, c'est de manifester ce qui n'est pas visible autrement. C'est de manifester le caractère de Dieu. Puis comme le Seigneur a dit, ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fait que quand on aime de l'amour de Dieu, ben, Ça, le monde, il ne peut pas faire autrement et dire c'est un amour qui est différent de l'amour qu'on connaît dans le monde. C'est un amour inconditionnel. Puis c'est un amour qui a gagné. Je ne sais pas si, probablement, il y en a qui, de vous autres qui ont connu le livre Pardonne-moi, Natacha, là. C'est un livre qui est écrit sur la persécution en Russie. Puis Sergueï Kourdakov, qui est celui qui a écrit le livre, lui, il a travaillé pour la jeunesse communiste, puis il voulait détruire tous les chrétiens, puis il allait, puis il avait rencontré cette femme-là, Natacha, cette fille-là, dans un groupe de chrétiens, puis mais il voulait pas, il la battait pour plus qu'elle soit là, parce qu'il la trouvait belle, puis il aurait voulu qu'elle soit plus là, tu sais, mais quand il revenait, elle était encore là, mais puis elle, ben, elle manifestait de l'amour envers lui, elle priait pour lui. Puis à un moment donné, ben, quand il s'est tourné vers le Seigneur, il s'est tourné vers le Dieu de Natacha. Puis ça arrive aussi, ça arrive des fois des persécuteurs qui ont venu pour persécuter des chrétiens, puis ils ont dit, on pourrait-tu avoir votre nom parce que pendant que tu vas me battre, là, je voudrais prier pour toi. Ben ça, le persécuteur, il dit, c'est elle qui m'a battu, là, parce qu'elle a battu avec l'amour. C'est quelque chose que le monde ne connaît pas, là. Mais quand il voit ça, ben ça donne gloire à qui? Ça donne gloire au Seigneur Jésus, là. Ça donne gloire à Dieu.
Quand il dit pour toutes les générations du siècle des siècles,
Ouais.
mais ça va loin, loin.
Ben ça va jusque dans l'éternité, parce que dans l'éternité,
C'est ça. Et
on va être dans l'amour
il
du
priait
Père.
même pour nous autres, tu sais, c'est spécial. Il nous
Ouais.
avait un cœur.
Ouais.
Oui.
Ben oui, parce que cette prière-là est bonne pour nous autres, là.
Est
On est.
profonde.
Ouais, c'est ça, ouais.
Gérald, est-ce que je peux parler? C'est rare
Oui.
que je parle,
Oui,
là.
oui, oui, oui.
Je voulais juste dire quelque chose parce que tu as parlé que souvent il y a des personnes qui sont sauvées. Moi, ce qui est arrivé avec mon premier mari, il était vraiment terrible. Il
OK.
n'était pas vivable, il a fallu que je le quitte. Puis à un moment donné, c'est ça a été un divorce. Puis par la suite, plusieurs années après, ben, moi j'ai rencontré Jean-Claude. Puis à un moment donné, on s'est fait, à cause des enfants, on s'est fait amis ensemble. Puis c'était correct. Puis à un moment donné, il était dans les premiers de la région à avoir la COVID.
OK.
Puis avant de mourir, il lisait sa Bible et il était sauvé.
Ton premier mari, ça? Oh, wow.
Ouais, c'est spécial. C'est
Ouais.
juste pour jamais lâcher.
Faut jamais lâcher, non. Parce que ben, c'est ça que Pierre il dit aussi. Hein, il parle de la femme. Là, attends un petit peu, à Pierre 3. Il dit femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Fait que la femme a vraiment là.
Il connaissait, lui. Hein?
Hein? Pardon? Oui, c'est ça, la femme
Parler,
a.
c'est lui.
J'avais l'histoire d'un gars qui était allé, il prenait un coup avec un de ses amis, puis il l'a emmené chez eux, il dit, viens, il dit, voir, ma femme, elle va nous faire à manger, puis tout ça. Fait que là, il va chez eux, il arrive, puis il chiale après elle, puis tout ça, puis il dit, fais-nous à manger. Fait que là, il avait pris un coup, puis elle se dépêche, puis il fait à manger, puis l'autre gars, il dit, comment vous faites pour lui faire ça? Comment est-ce qu'il vous traite, puis tout ça? Ben, c'est le seul ciel qu'il va connaître s'il n'est pas sauvé. Fait que lui, il a été touché par cet amour-là, comment est-ce qu'elle apprenait soin. Mais ça, c'est juste l'amour de Dieu qui peut faire ça.
Mais pour le verset 18, là, cette valeur, je n'ai pas pris en note, mais la personne là, disait pour la longueur. C'était un peu là, comme Dieu est tellement grand, c'est tellement que les païens, puis les juifs, ils sont réunis là.
Ouais,
Les
dans l'église.
possibilités, ouais.
Ouais.
Puis pour les autres, là, je n'ai pas noté. les versets là, qui allaient avec ça.
Les versets. Tu veux dire que tu
Ouais.
parlais de l'amour de Dieu?
Qui parlait, admettons, de la profondeur, puis la largeur, puis
C'est ça, parce que ce qu'on a dit de la
la
profondeur, la
hauteur.
largeur, la hauteur, c'est que pour être là-dedans, il faut être au milieu pour avoir la profondeur puis la hauteur au-dessus, là. On a parlé d'un océan d'amour, là.
Ouais.
C'est être au milieu de cette. Ouais.
Oui, c'est bon ça.
Mais dans Jean 4, 16, il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ouais. Un Jean 4, 16. Puis un Jean 4, 10 à 11 aussi. Jean parle beaucoup de l'amour parce que Jean, on appelle l'apôtre de l'amour parce qu'il s'appelait lui-même le disciple que Jésus a aimé. Mais on dit, ouais, mais là, c'est prétentieux. Mais c'est pas prétentieux. On peut tous s'appeler le disciple que Jésus a aimé parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça fait que le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour. Jean le reconnaissait. Mais tout le monde peut le reconnaître. Il nous a tous aimés.
Le verset 18, si je peux peut-être ajouter quelque chose.
OK.
Tu parles de largeur, longueur, profondeur et hauteur. On peut dire aussi que Dieu, dans son amour, c'est infini sur tous les côtés. Que ce soit dans la longueur, la hauteur, profondeur et ainsi de suite, on ne peut pas, comment je dirais ça, vraiment connaître tout ça parce que c'est infini.
C'est ça.
Infini de tous les côtés
C'est ouais.
parce qu'il est Dieu. Et pour nous, on va vraiment comprendre tout ça quand on va être dans sa présence.
Ouais.
Parce que présentement, la hauteur est finie en tant qu'humain. Pour nous, c'est difficile de réaliser ça. Mais on peut dire, ben, moi, je pensais à tout ça, c'est dans le sens que c'est infini de tous les côtés.
Ben c'est ça,
Si
ouais. Ouais, on peut.
ça peut résumer un peu
Ouais,
mon
ben
frère
c'est vrai.
tantôt.
Ben c'est ça, on ne peut pas atteindre c'est un peu comme l'infiniment grand puis l'infiniment petit. On ne peut pas rejoindre l'infiniment grand, puis on ne peut pas rejoindre l'infiniment petit. Puis l'amour de Dieu, ben c'est comme ça nous dépasse. On est dépassé de notre temps aussi, ça fait qu'on va peut-être terminer par un mot de prière. Fait que ceux qui doivent partir vont pouvoir partir, mais s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on pourra continuer. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour un si grand amour. On a été ébloui, Seigneur, devant cet amour, mais tu nous l'as manifesté, puis c'est ton caractère même, notre Dieu. Tu sais, toi, tu es un Dieu d'amour. On n'avait pas connu cet amour-là dans le monde, on ne l'avait pas connu non plus dans la religion, mais dans ton évangile, on a pu la connaître parce que le Seigneur Jésus s'est livré lui-même, tu l'as donné pour nos péchés, puis il a accepté la souffrance, il a accepté la mort. Parce qu'il nous a, et parce qu'il t'aimait, parce qu'il nous aimait aussi. Seigneur, donne-nous d'être enracinés et fondés dans cet amour-là, afin que, on puisse manifester cet amour-là autour de nous. Comme le Seigneur Jésus a dit, ils sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Seigneur, pour qu'on puisse rejoindre le monde dans lequel on vit, qui ont besoin aussi de cet amour-là. Parce que le temps presse. On sait que. Puis on se souvient, Seigneur, du moment qu'on a reconnu ton salut, le désir de notre cœur était de rejoindre ceux qu'on aimait. Et Seigneur, donne-nous de continuer, de ne pas abandonner cet amour-là, notre premier amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.